franceinter.fr.
Bonjour Bertrand Piccard.
Bonjour Patrick Cohen.
Puisque aventurier n'est pas un métier, on apprend sur la jaquette de votre livre que vous êtes psychiatre, mais aussi champion d'Europe de voltige en deltaplane. Ce livre, Objectif Soleil, qui paraît la semaine prochaine chez Stock, c'est le récit avec votre camarade André Borschberg de l'aventure Solar Impulse, puisque vous êtes et vous resterez pour l'histoire l'initiateur et l'auteur du premier tour du monde en avion solaire dans un appareil, donc sans carburant. Ce qu'on découvre dès le début de ce livre, Bertrand Piccard, c'est que c'est vous qui avez l'idée de ce défi et de cet exploit il y a près de 20 ans. Ce n'est pas un industriel qui est allé vous chercher, c'est vous qui prenez contact avec des laboratoires pour une première étude de faisabilité.
C'est vrai qu'après mon tour du monde en ballon, sans escale, en 99, je me suis dit qu'il devait y avoir une autre manière de voler qu'en brûlant du gaz et en ayant peur tous les jours de tomber en panne. Et je me suis dit qu'il pouvait peut-être, avec l'énergie solaire, y avoir une manière de voler perpétuellement. Décoller et se dire on vole aussi longtemps qu'on veut, on n'a pas de carburant, on n'a pas de limite. En fait, c'est comme ça qu'est né dans ma tête le rêve de Solar Impulse. Enfin, dans ma tête et peut-être plutôt dans mon cœur, parce que c'était vraiment une passion incroyable.
C'est en voyant ce drone construit pour la NASA par un Américain du nom de McCready, vous vous dites pourquoi ne pas mettre sur un appareil de ce type, sur ce drone, un cockpit et un pilote.
Oui, parce que la technologie, c'est formidable, on peut faire beaucoup de choses, mais pour moi, c'est l'aventure humaine qui est importante. C'est comment partager une émotion et comment encourager les gens à faire la même chose. Comment est-ce qu'on peut les encourager à se dépasser, à croire dans leurs rêves, à aller plus loin que ce qu'ils pensent possible. Et puis, comment est-ce que ça peut être utile à la société? Parce que Solar Impulse, c'était l'aventure d'André Borschberg et moi au niveau pilote. Mais pour la société, c'était une démonstration incroyable de ce qu'on peut faire sans carburant. Comment est-ce qu'on peut être plus propre? Comment est-ce qu'on peut être plus respectueux de l'environnement?
Ça veut dire que dès le début, il y a l'idée d'un projet qui peut éventuellement améliorer la qualité de vie des citoyens du monde et pas seulement la quête de l'exploit, parce que vous venez de là, cette quête de l'exploit. Vous rappelez que vous veniez à ce moment-là de boucler ce premier tour du monde en ballon sans escale.
Alors le ballon, c'était mon rêve personnel. J'avais envie d'accomplir quelque chose que personne n'avait fait. Solar Impulse, c'est vraiment l'aventure que je voulais être utile. Et peut-être que ça a culminé au moment où j'étais en train de voler sur le Pacifique entre Hawaï et San Francisco et que j'ai parlé en direct au secrétaire général des Nations Unies pendant la signature de l'accord de Paris. Ça, c'était un moment où je me suis dit, Solar Impulse est en train de jouer le rôle que j'avais envie qu'il joue.
Alors, accomplir quelque chose que personne n'avait fait, c'est une sorte de tradition familiale. Chez vous, Bertrand Piccard, il y avait l'idée de faire comme votre père et votre grand-père.
Si on considère que ce qu'ils ont vraiment fait, c'était de mettre l'exploration scientifique au service de la protection de l'environnement, c'est vrai que c'est ce que j'avais envie de faire.
Bon.
Parce que très souvent, vous savez, la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui est très rébarbatif, qui menace notre mobilité, notre confort, notre croissance, nos habitudes. Et ça a créé un rejet. La population, on voit bien dans les élections, il y a 2,5% pour les écolos. Donc il faut faire autrement. Et faire autrement, c'est montrer que la protection de l'environnement, ça peut être rentable, ça peut être attrayant, excitant, enthousiasmant. Et c'est ça que j'ai voulu donner comme visage avec Solar Impulse. Solar Impulse, c'était vraiment un message de ce qu'on pouvait faire avec des technologies propres, en parfait respect avec l'environnement. Et puis y mettre de l'émotion, et je crois que ça, ça a été bien compris. C'est ce qu'on a voulu passer dans notre livre, d'ailleurs, le côté émotion.
On s'arrête juste quelques minutes sur votre ascendance. Je vais vous faire écouter cet extrait des actualités françaises de 1947.
À Anvers, en Belgique, on met la dernière main à la gigantesque sphère qui doit amener le professeur Piccard à plus de 6000 mètres sous les eaux. Cette sphère d'acier, véritable nacelle sous-marine de 2 mètres de diamètre et 9 cm d'épaisseur, est maintenant à l'usinage pour le percement des hublots. Le professeur Piccard, déjà détenteur du record de hauteur, battra bientôt celui de profondeur.
Record de profondeur après celui de hauteur. Extraordinaire, professeur Auguste Piccard, qui a été d'ailleurs l'un des modèles de Hergé pour la silhouette du brosseur tournesol, que vous avez très peu connu. Il est mort en 62, je crois.
Il est mort quand j'avais 4 ans.
Ouais.
Alors j'ai les images d'un grand-père affectueux, mais tout ce que je connais de son génie, de savant, ça c'est ce que mon père m'a raconté, ce que j'ai lu ou entendu comme juste maintenant.
En revanche, vous vous souvenez du petit garçon que vous étiez quand votre père vous traînait à Cap Canaveral?
Oui, ça c'était des moments fantastiques. J'avais entre 10 ans et 12 ans. J'habitais en Floride avec ma famille et J'ai rencontré pratiquement tous les astronautes du programme spatial américain. J'ai rencontré Charles Lindbergh, Wernher von Braun, Jacques Mayol venait à la maison, je plongeais avec lui. Donc c'est vrai que c'est là que j'ai eu envie de cette vie-là. Mais j'ai eu envie de cette vie-là pour explorer, mais aussi parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est passionnant. Il y a tellement de gens dans leur vie qui sont bloqués par leur peur de réaliser ce qu'ils aimeraient accomplir. Alors ils ont des rêves, puis ils restent paralysés chez eux, à se morfondre, à s'angoisser parce qu'ils n'osent pas. Alors qu'en fait, il suffit d'oser et il suffit de pas avoir peur de rater.
Vous n'avez pas rêvé, Bertrand Piccard, de devenir astronaute ?
Oui, mais j'étais trop jeune à l'époque. J'avais 11 ans quand Apollo 11 a atterri sur la Lune.
Oui.
Et pendant longtemps, je me suis dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Jusqu'au moment
parce
où j'ai vu
que les programmes spatiaux étaient arrêtés,
ouais,
étaient en sommeil.
Oui, et puis une fois qu'on a été sur la Lune, vous voulez faire quoi de mieux ?
Ah.
Maintenant, il y a eu 500 personnes dans l'espace, donc c'est plus de l'exploration, c'est de la science, c'est du développement technologique.
Thomas Pesquet, ça ne vous fait pas rêver aujourd'hui ?
Oui, ça me fait rêver, mais ça me fait rêver comme une aventure personnelle. Mais ce que j'avais envie de faire, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Parce que quand vous êtes dans une première, il n'y a personne qui vous dit comment faire. Vous n'avez aucune solution prédéfinie. Vous êtes obligé de tout inventer. Il vous faut une équipe, il vous faut de la remise en question. Et quand vous commencez, tout le monde vous dit « t'es complètement fou, tu ne vas pas y arriver ». Et c'est une stimulation fantastique parce que finalement, les gens qui rejoignent votre équipe sont des gens qui recherchent l'extraordinaire. Si vous voulez faire quelque chose de banal, vous avez des gens très conventionnels qui viennent. Et Solar Impulse, c'était ça. Solar Impulse a drainé une équipe absolument incroyable. Et ce qu'on explique aussi dans le livre avec André, puisque on a écrit ce livre à deux,
André Borchberg, un livre à deux voix avec des récits
à deux voix
qui s'alternent, et
y a
passent de l'un à l'autre.
Il y a toutes nos peurs, il y a tous nos doutes, il y a toute l'aventure humaine. La technologie, c'est une chose. Vous savez, il a fallu 5 minutes pour savoir combien d'énergie solaire il nous fallait pour pouvoir faire le tour du monde. Ensuite, il a fallu 12 ans. Pour construire l'avion, le tester, avoir les financements, et puis entraîner assez de gens avec nous dans cette aventure.
Alors justement, ce livre, c'est une somme d'anecdotes, de moments, de récits. Vous avez dû mener à bien un défi, vous l'avez dit, à la fois humain, scientifique, industriel, financier. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, le plus compliqué ?
Tout. La combinaison de tout. S'il y avait qu'un seul problème, on aurait pu le régler une fois pour toutes. Mais c'était des problèmes successifs. On a été à 2 mois de la faillite plusieurs fois. Des pièces importantes de l'avion ont cassé pendant les tests. Le hangar mobile gonflable de Solar Impulse, quand on était dans la traversée des États-Unis, a commencé à se dégonfler, appuyer sur les ailes, a failli casser l'avion. Les problèmes administratifs et bureaucratiques sont finalement plus compliqués que la météorologie. Donc finalement, on voit que si on veut faire quelque chose qui n'a jamais été fait, on doit se faire tout petit, on doit passer à travers beaucoup de problèmes, parfois même des humiliations, des doutes, des peurs. Mais si on accepte ça, on peut réussir. Et avec André, ce qui était magnifique, c'est qu'on est très très différents. Ce qui fait qu'on n'était jamais down en même temps. Et on n'avait jamais nos problèmes en même temps. Donc on pouvait s'entraider. Et c'est toute une amitié. Mais c'est intéressant parce que c'est une amitié avec une rivalité terrible. Parce que ça aurait pu être le titre du livre. Ça aurait pu être deux hommes et un avion.
Oui, André Borchberg qui a un autre profil, on va le résumer en quelques mots. C'est un passionné d'aviation au départ. Il raconte qu'il dévore les livres de Clostermann quand il est gamin. Et puis il devient ensuite pilote de l'air de l'armée suisse. C'était son métier. Hein.
Exactement. Donc forcément, une certaine rivalité, une amitié et une stimulation. Et quand il n'y a qu'un siège et qu'il y a deux pilotes, forcément, il y a des problèmes. Mais c'est intéressant parce qu'on a bien vu que quand on est en rivalité avec quelqu'un, il ne s'agit pas d'essayer d'être meilleur que l'autre, il s'agit d'être meilleur que soi-même. Ce qui fait qu'il y a toute cette relation psychologique entre André et moi, où nous avons énormément évolué, où nous nous sommes énormément développés grâce à cette compétition. Et ça nous a beaucoup aidé finalement à faire ce qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire. Moi, j'aurais jamais imaginé pouvoir traverser autant de doutes et autant de problèmes et puis en sortir debout et victorieux.
Et avec un bilan scientifique et industriel intéressant, quel sera le lendemain de Solar Impulse ? Sur quoi ça va déboucher ? À quoi ça va servir ? Je pense que beaucoup d'auditeurs se posent déjà la question.
Alors, André travaille à la création de petits engins autonomes électriques qui se déplaceront dans le ciel pour du transport urbain. Et moi, je travaille à la création de l'Alliance mondiale des solutions efficientes dans le but d'amener d'ici moins de 2 ans pour COP24 1000 solutions rentables et efficientes pour protéger l'environnement. Pas des solutions utopiques ou des solutions écolo qui coûtent cher, mais des solutions rentables que l'industrie peut construire, fabriquer, vendre et de manière rentable. Et ça, je pense que c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'environnement, de changement climatique, etc., on présente toujours les problèmes, alors que les gens connaissent les problèmes, ils en ont marre des problèmes, ils en ont par-dessus la tête. Ce qu'il faut, c'est leur montrer des solutions, ce qu'ils peuvent faire, ce que l'industrie peut faire, comment être plus efficient, comment économiser de l'énergie. Et ça, c'est possible, c'est totalement possible.
Vous nous donnerez quelques exemples tout à l'heure?
Alors, je vous donnerai absolument des exemples,
bon,
avec plaisir.
Ce sera dans la deuxième
peut-être
partie.
Peut-être pas encore les 1000, mais en tout cas
non,
une dizaine.
Non, on n'aura pas la place. Mais quelques exemples volontiers, ce sera dans quelques minutes après la revue de presse et avec les questions des auditeurs de France Inter. Il est 8h33.